Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente Curiosité philosophique de Platon à Russell, de Thibaut Giraud, lu par Thibaut Giraud. À Kion-A et nos deux petits monstres. Avant-propos. Les philosophes sont bien incapables de s'accorder sur une réponse à la question de savoir ce qu'est la philosophie, et ce n'est pas faute de se l'être posée. En revanche, ils pourront sans peine s'entendre sur l'importance de certaines œuvres, la République de Platon, les méditations métaphysiques de Descartes ou la critique de la raison pure de Kant. Voilà bien de la philosophie, assurément, quoi qu'on ne sache pas ce que des œuvres si différentes ont en commun pour justifier ce titre. En somme, quand on nous demande ce qu'est la philosophie, il est difficile de faire mieux que donner des exemples de textes ou d'auteurs mettant en œuvre une mystérieuse qualité que nous sommes à peu près impuissants à expliquer. En cela, nous sommes aussi démunis que les interlocuteurs de Socrate qui, à des questions comme « qu'est-ce que le courage ?» ou « qu'est-ce que la beauté ?», énuméraient pêle-mêle des actions courageuses ou des choses belles. Socrate leur rétorquait qu'il attendait une définition, non des exemples, et nous sommes tout aussi embarrassés qu'eux pour donner celle de la philosophie. Si je m'y risquais tout de même avec prudence, je serais tenté de la définir comme une discipline qui s'efforce de répondre de façon rationnelle à certaines questions importantes, par exemple celles qui touchent au fondement de la connaissance ou à la meilleure façon de mener sa vie. Mais si vague et inclusive que soit cette définition, elle est déjà assez précise pour exclure davantage que je ne le voudrais. Par exemple, la plus grande partie des œuvres de Nietzsche auront du mal à satisfaire cette condition de rationalité. À vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait davantage qu'un air de famille et un jeu complexe d'hérédité entre toutes les choses que l'on rattache à la vénérable idée de philosophie. Et ce livre n'a pas d'autre ambition que de présenter un choix d'instantané de la pensée de quelques-uns des plus illustres membres de cette famille. Il va de soi qu'aucun des textes présentés ne suffit à donner une image complète de son auteur, mais chacun développe sa réflexion sur au moins un aspect susceptible de piquer votre curiosité. Libre à vous ensuite de prolonger la discussion avec ceux dont la société vous semble la plus agréable. En somme, si ce livre introduit à la philosophie, ou tout au moins à une large part de la philosophie occidentale, ce n'est pas tant au sens scolaire d'un cours d'introduction, mais plutôt comme on vous introduirait dans une conversation. Je ne prétends rien d'autre que faciliter un premier rapport avec des auteurs qui, en d'autres circonstances, et notamment dans leurs propres ouvrages, peuvent se montrer effrayants et malpolis, surtout avec les nouveaux venus. Ici, tout au moins, je ferai en sorte qu'ils se montrent lisibles et amicaux avec tout le monde. Première partie, philosophie antique. Chapitre 1, Platon, écrire contre l'écriture. Cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris. Il y a un point commun à tous les livres, les meilleurs comme les pires, ils ont été écrits. Est-ce à blâmer ? Ce serait sans doute une drôle d'idée au commencement d'un livre qui ne manque pas, lui aussi, d'avoir été écrit. C'est pourtant cette curiosité philosophique que j'ai choisi de traiter dans ce premier chapitre. Une critique radicale de l'écriture qui fut écrite, et donc doit se critiquer elle-même sous cet aspect, par un illustre citoyen d'Athènes connu sous le nom de Platon. Si ce nom est resté dans les mémoires et vous est peut-être familier, c'est que Platon est un philosophe dont, justement, il nous reste beaucoup d'écrits et dont les écrits ont eu sur la philosophie occidentale une influence notable. C'est peu dire. 23 siècles plus tard, Alfred Whitehead déclarait « La tradition philosophique européenne consiste en une série de notes de bas de page aux œuvres de Platon. » Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon fonde une école à Athènes dans le jardin d'Académos. Le nom du lieu donna celui de l'école, l'Académie. Que ce mot ait pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui est un autre témoignage frappant de l'importance de l'héritage intellectuel de Platon. Durant les 40 dernières années de sa vie, le philosophe y dispense un enseignement oral dont nous ne savons presque rien, car il n'a justement pas été mis par écrit. Ainsi, quand nous parlons de l'œuvre de Platon et de son influence, il faut se souvenir que ce n'est jamais que sa partie écrite qui nous est connue. Or, si l'on devait prendre au mot sa propre critique de l'écriture, il n'est pas déraisonnable de penser que ce n'est pas cette partie que Platon lui-même aurait jugée comme étant la plus importante. Les œuvres écrites de Platon n'en sont pas moins d'une incroyable richesse. Ce ne sont pas des traités arides, mais des dialogues souvent drôles et parsemés de jeux intellectuels qui mettent en scène pour la plupart le personnage de Socrate en berlificotant ses interlocuteurs dans un épuisant va-et-vient de questions et de réponses. Le statut de ces textes est encore aujourd'hui sujet à discussion. Il s'agit de textes littéraires qui présentent une dramaturgie élaborée et qui étaient destinés à une diffusion publique. Peut-être avait-il pour principale fonction d'inviter à la pratique de la philosophie sans nécessairement refléter les véritables enseignements de l'Académie. Ces joutes dialectiques seraient en quelque sorte la version philosophique des démonstrations de combat de moines Shaolin. Le scénario est souvent le même, classique mais efficace. Un sophiste, un peu trop sûr de lui, roule des mécaniques devant l'humble Socrate qui se présente comme un ignorant. Mais après quelques échanges dialectiques savamment chorégraphiés, le vieux maître coince son insolent adversaire dans une contradiction qu'il n'avait pas vu venir. De fait, le contradicteur d'un dialogue socratique finit souvent par servir de punching ball parlant, n'ayant plus rien à répondre que « tout à fait, Socrate, il n'en est pas autrement ». L'œuvre écrite de Platon demeure en tout cas monumentale. Il n'y a pas un seul champ de la philosophie qui ne plonge ses racines d'une façon ou d'une autre dans quelques-uns de ses vénérables dialogues. Présenter même succinctement les divers aspects de cette œuvre reviendrait à établir un catalogue assez vain et qui pêcherait forcément d'une façon ou d'une autre, au moins par omission. Aussi, venons-en sans plus attendre au point particulier que je voulais développer dans ce chapitre, la paradoxale critique de l'écriture dans les écrits de Platon. Elle est principalement développée dans le passage du Phèdre où Socrate relate le mythe de Thote, inventeur de l'écriture. Socrate. Mais convient-il ou ne convient-il pas d'écrire? Dans quelles conditions est-il séant de le faire et dans quelles autres cela ne l'est-il pas? Voilà une question qui reste posée. J'ai entendu dire que du côté de Nocratis, en Égypte, il y a une des vieilles divinités de là-bas, celle-là même dont l'emblème sacré est un oiseau qu'ils appellent, tu le sais, l'ibis. Le nom de cette divinité est Thote. C'est donc lui qui, le premier, découvrit le nombre et le calcul et la géométrie et l'astronomie et encore le trictrac et enfin et surtout l'écriture. Or, en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière Thammuz. Thoth, étant venu le trouver, lui fit une démonstration de ses arts et lui dit qu'il fallait les communiquer aux autres Égyptiens. Mais Thammuz lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun de ces arts. Et alors que Thoth donnait des explications, Thammuz, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, prononçait tantôt le blâme, tantôt l'éloge. Quand on en fut à l'écriture, « Voici, ô roi, dit Thoth, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. » Mais Thammuz répliqua, « Ô Thoth, toi qui es le père de l'écriture, tu lui attribues par complaisance un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire. » Mettant en effet leur confiance dans l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. Quant à la science, c'en est la semblance que tu procures à tes disciples, non la réalité. Lors donc que, grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de choses sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de science, alors que, dans la plupart des cas, ils n'auront aucune science. De plus, ils seront insupportables dans leur commerce parce qu'ils seront devenus des semblants de savants au lieu d'être des savants. Le jeune Phèdre, interlocuteur de Socrate dans ce dialogue, émet quelques doutes ironiques sur l'authenticité de cette chronique égyptienne, à quoi Socrate rétorque qu'il fut un temps où les prêtres du temple de Zeus à Dodone ne s'étonnaient pas que des arbres ou des pierres parlent pourvu qu'elles disent vrai, tandis que les savants modernes semblent s'intéresser moins à la justesse du discours qu'à l'origine de celui qui le prononce. C'était assez pour clouer le bec du bel Éphèbe à qui Socrate faisait la leçon, et de l'œil, mais je dois avouer que je partage la méfiance de l'élève à l'égard de ce détour par une histoire à dormir debout pour exposer une argumentation rationnelle. Ce n'est pas un cas isolé dans l'œuvre de Platon, à qui l'on pourrait diagnostiquer une sorte de mythomanie philosophique qui se manifeste par les nombreux mythes et allégories dont il ne peut s'empêcher de truffer ses dialogues. La plus célèbre, celle de la caverne, est souvent le premier contact des lycéens confrontés à la philosophie. Imaginez des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne. Leur tête maintenue immobile, ils ne peuvent rien voir d'autre que des ombres projetées par un feu sur le mur en face d'eux. Et ces ombres sont pour eux la réalité même, jusqu'à ce que l'un d'eux brise ses chaînes, tourne la tête et aperçoive les objets et le feu qui en projettent les ombres. Il sort et voit la lumière extérieure, le monde à la surface et enfin le soleil lui-même. Je ne sais pas ce que les élèves retiennent de cette étrange allégorie, mais ils peuvent certainement sympathiser avec des prisonniers forcés d'étudier des ombres inintéressantes alors que le soleil brille dehors. L'allégorie de la caverne est un point de départ classique pour un cours de philosophie, alors même que son interprétation semble assez difficile en vérité. Cela pourrait donner une dimension héroïque au professeur brisant les chaînes des élèves pour les amener à la lumière, mais le déroulement du cours de philosophie est peut-être mieux évoqué par la toute fin de l'allégorie. Lorsque celui qui est sorti de la caverne revient auprès de ses anciens compagnons pour les libérer, ceux-ci le prennent pour un fou et, s'ils s'avisent d'essayer d'ôter leurs chaînes, ils tenteront de le tuer. Toutefois, si la philosophie est une affaire de raison et non de rhétorique, pourquoi s'appuyer si souvent sur des mythes et des allégories plutôt que de formuler clairement des arguments ? Voilà qui n'a pas fini d'agiter les commentateurs de Platon qui, depuis des siècles, peinent à s'entendre sur une réponse à cette question. Laissons de côté pour l'heure la dimension mythique du passage sur l'invention de l'écriture. Dans la suite du dialogue, le personnage de Socrate, que l'on s'accorde à reconnaître ici comme un porte-voix de la pensée de Platon, va, quoi qu'il en soit, reprendre à son compte et préciser les critiques de Thamous contre l'inventeur de l'écriture. Socrate. Par conséquent, celui qui se figure avoir laissé derrière lui en des caractères écrits les règles d'un art est celui qui, de son côté, recueille ces règles en croyant que des caractères d'écriture sortira du certain et du solide, ces gens-là sont tout remplis de naïveté, comme tout un chacun qui croit que les discours écrits sont quelque chose de plus qu'un moyen de se rappeler à celui qui les connaît déjà les choses traitées dans cet écrit. Phèdre, tout à fait juste. Socrate. Car, à mon avis, ce qu'il y a de terrible, Phèdre, c'est la ressemblance qu'entretient l'écriture avec la peinture. De fait, les êtres qu'engendre la peinture se tiennent debout comme s'ils étaient vivants, mais qu'on les interroge, ils restent figés dans une pose solennelle et gardent le silence. Et il en va de même pour les discours écrits. On pourrait croire qu'ils parlent pour exprimer quelques réflexions, mais si on les interroge parce qu'on souhaite comprendre ce qu'ils disent, c'est une seule chose qu'ils se contentent de signifier, toujours la même. Autre chose, quand, une fois pour toutes, il a été écrit, chaque discours va rouler de droite et de gauche et passe indifféremment auprès de ceux dont ce n'est point l'affaire. De plus, il ne sait pas quels sont ceux à qui il doit ou non s'adresser. Que par ailleurs s'élèvent à son sujet des voix discordantes et qu'il soit injustement injurié, il a toujours besoin du secours de son père, car il n'est capable ni de se défendre, ni de se tirer d'affaire tout seul. Quels sont donc les griefs que Platon retient contre l'écriture ? Les deux principaux s'opposent justement aux deux bénéfices mis en avant par le dieu Thoth dans son discours initial. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé, affirme naïvement le divin inventeur. Mais Thamous objecte, et Socrate avec Thamous, et Platon avec Socrate, que l'écriture ne créerait que des semblants de savants et produirait l'oubli dans l'âme. Le premier point suggère que Platon ne conçoit pas d'enseignement possible sans la confrontation dialectique d'opinions opposées, laquelle nécessiterait un véritable dialogue, et c'est en effet un thème récurrent dans les autres écrits de Platon. Or, si un texte peut mettre en scène un dialogue, comme c'est le cas du Phèdre, il ne permet pas au lecteur d'échanger réellement avec l'auteur. Nous qui lisons le dialogue entre Socrate et Phèdre, nous ne sommes ni Socrate ni Phèdre. Et si au cours de notre lecture nous souhaitons nous immiscer dans la conversation, poser nous-mêmes une question à Socrate et à travers lui à Platon, celui-ci restera de marbre et poursuivra sa discussion avec Phèdre comme si de rien n'était. La forme dialoguée fait ressortir de façon particulièrement saillante le fait que le texte écrit ne constitue pas un échange direct et réel avec celui qui le lit. Mon interprétation est-elle incorrecte ? C'est bien possible, mais Platon n'est pas là pour me contredire et c'est justement le point de la critique. Si au lieu de lire son texte, je dialoguais avec lui, Platon aurait pu s'aviser de mes erreurs, aurait répondu à mes remarques, aurait explicité sa pensée et défendu son texte contre mon incompréhension. Voilà pourquoi un texte a toujours besoin du secours de son père, même ce texte que je viens de citer. Le deuxième point concerne la mémoire. Une tradition orale est nécessairement limitée par ce que la mémoire humaine peut contenir. Songez à la révolution que constitue l'écriture. Elle augmente brusquement la quantité d'informations qu'une communauté humaine peut transmettre d'une génération à l'autre. Est-ce pour autant, comme le revendique le divin Thoth, un remède à leur mémoire ? Non, objecte Tammuz, car cela dispenserait justement les êtres humains d'user de leur mémoire pour transmettre ces informations. Ce ne sont plus que des caractères écrits qui sont transmis. Écrire n'empêche pas l'oubli, tout au contraire. Écrire permet d'oublier. S'il n'y a plus personne aujourd'hui pour conserver dans sa mémoire tous les vers de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est justement parce qu'elles sont écrites et n'ont plus besoin de cela pour se conserver. Au lieu d'épopées vivantes dans la tête des Aèdes, ce ne sont plus que des textes morts encodés dans des signes indifférents. Pauvre Homère. Ce que cette critique a d'amusant à lire aujourd'hui, c'est qu'elle s'appliquerait aussi bien à deux des inventions les plus formidables de l'histoire humaine, l'imprimerie et l'informatique. Elles ont en commun d'avoir démultiplié la puissance de l'écriture en diminuant par un facteur gigantesque les efforts nécessaires à la production des textes et à leur diffusion. Aujourd'hui, rien n'est plus aisé et rapide que d'écrire et de publier. C'est être lu qui devient précieux et difficile. Chaque fois qu'une technologie a facilité l'accès au texte, elle a diminué l'importance de la mémoire chez les lecteurs. En somme, il faut imaginer Socrate râlant devant un Phèdre adolescent rivé à son smartphone. « Ah, dans le temps, on n'avait pas tout votre Wikipédia et on en savait davantage. Ces jeunes, toujours connectés avec leur Internet et leur YouTube, ils n'ont plus de mémoire, c'est malheureux. » De fait, je n'aurais pas écrit ce chapitre si je n'avais eu accès qu'à ma mémoire qui est, je dois l'avouer, bien limitée. J'avais d'ailleurs à peu près oublié ce texte de Platon. Il ne me restait qu'une vague idée de sa critique de l'écriture. Mais avec mon portable sous la main, Platon plus critique plus écriture dans un moteur de recherche et hop, non seulement je retrouve le mythe de Thoth en un clin d'œil, mais je découvre aussi une flopée d'articles qui en discutent admirablement bien, après quoi je consulte un article sur le dieu égyptien Thoth, T-H-O-T, qui donna Thoth, T-H-E-U-T-H chez Platon, puis un autre sur Amout, la dévoreuse des âmes au corps d'hippopotame et à la tête de crocodile et aux pattes de lion, et je terminais quelques heures plus tard devant deux fascinantes vidéos de Blob. Il semble que je ne manque pas seulement de mémoire, mais aussi d'attention. Critiquer les innovations techniques qui nous éloignent de l'authenticité et de la simplicité du bon vieux temps, c'est un réflexe aussi vieux que l'écriture. Toutefois, de toutes les techniques, l'écriture est peut-être aussi celle qui s'est attirée le moins de critiques. En effet, il semble difficile de contester les bénéfices de cet art qui nous a transmis, entre autres merveilles, les dialogues de Platon. Hormis Platon, je ne connais aucun écrivain qui s'y soit sérieusement risqué. Car il faut convenir qu'il est bien paradoxal d'écrire contre l'écriture. Mais quitte à le faire, Platon ne pouvait certes pas emprunter de meilleure bouche que celle de Socrate, cette figure tutélaire de la philosophie occidentale qui n'a justement laissé aucun écrit et à qui les écrits de tant d'autres dans les siècles suivants ont fait dire tout et son contraire. Parlons enfin de ce Socrate que Platon fait si bien parler. S'il a quelque chose d'une légende, il n'est pas pour autant fictif. Né vers -470 à Athènes, il y est aussi mort en -399 dans des circonstances qui ne laissent aucun philosophe indifférent. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, Socrate est condamné à mort par le tribunal démocratique d'Athènes au terme d'un procès houleux dont une large part est retranscrite avec beaucoup d'art mais sans doute assez infidèlement dans l'Apologie de Socrate de Platon. Socrate boira sans trembler la coupe de ciguë en application de la sentence, une scène elle aussi retranscrite avec beaucoup de liberté dans l'un des plus beaux dialogues de Platon, le Phédon. Hormis les circonstances de son procès et de sa mort, presque tous les éléments de la vie de Socrate sont soit imprécis, soit incertains. Mais de la vie générale de ceux qui l'ont connu, et plus encore de ceux qui ne l'ont pas connu, c'était un philosophe, un vrai. Le modèle du genre, le canon du philosophe. Nous nous figurons plaisamment le vieux Socrate allant par les rues d'Athènes, sans chaussures, questionnant les passants, illustres et inconnus, discutant sans relâche et se faisant surtout une spécialité de révéler publiquement l'ignorance de ceux qui croient savoir. Une foule de disciples le suivait, cherchant à l'imiter. Parmi eux se trouvait un beau jeune homme qui, en raison de sa forte carrure, était surnommé le Large, en grec, Platon. Parce que Socrate philosophait en dialoguant, en questionnant directement, il n'a rien voulu écrire. Mais sa vie et sa mort l'ont rendu assez légendaire pour qu'écrire à son sujet soit incontournable. Ses disciples, et notamment ce Large qui aura une certaine importance, paraît-il, le feront ainsi revivre dans des dialogues tâchant de retranscrire, avec plus ou moins de talent et de fidélité, les échanges que leur maître aurait eu ou aurait pu avoir sur divers sujets avec divers interlocuteurs. Si les dialogues de jeunesse de Platon semblent avoir eu pour ambition de présenter Socrate tel qu'il était, les dialogues plus tardifs, dont le Phèdre, utiliseraient plutôt Socrate comme le porte-voix d'idées qui n'étaient en rien les siennes, mais bien celles de Platon. Grégory Vlastos, l'un des plus grands spécialistes de Platon au XXe siècle, avance même l'idée qu'il faut distinguer deux auteurs nommés Socrate dans les écrits de Platon, l'un correspondant au Socrate historique, l'autre présentant la philosophie de Platon proprement dite. Et il n'est pas le seul à en user ainsi. Le dialogue socratique devient un genre littéraire en soi auquel se prêtent de nombreux auteurs, qu'ils aient ou non connu le modèle. Justement parce qu'il philosophait sans écrire, Socrate est une figure idéale pour l'écriture philosophique. Tout discours ne prend-il pas un accent plus vénérable dès lors qu'il est attribué à un tel maître ? 23 siècles plus tard, la mode est retombée, mais elle n'a pas totalement disparu. En témoigne un petit dialogue intitulé « Les trois passoires de Socrate » qui rencontre un étrange succès viral sur Internet. Repris très sérieusement sur de nombreux sites et vidéos, en anglais comme en français, et peut-être même en grec, souvent présenté comme un authentique texte de l'Antiquité, ce n'est en fait à l'origine qu'une historiette morale destinée aux enfants, mettant en scène un petit garçon sur le point de répéter un vilain commérage, quand sa mère, pleine de bon sens, demande de passer celui-ci à travers les trois passoires. Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Est-ce nécessaire? Il suffisait de remplacer la maman par Socrate pour que ce dialogue moralisateur et insipide, auquel personne n'aurait prêté la moindre attention, à raison, prenne tout à coup une toute autre dimension. Puisque Socrate le dit, cela doit être digne d'être médité. Le procédé fonctionne encore. Si Platon, par la bouche de Socrate, compare un texte écrit à un enfant abandonné, le Socrate historique aurait pu s'inquiéter aussi du sort de ceux qui, n'ayant jamais écrit, se voient attribuer beaucoup d'enfants illégitimes. Quelques livres pour aller plus loin. Platon, Apologie de Socrate, Criton, Phédon. Le livre de poche, 1992. Comment Socrate s'est-il défendu lors de son procès? Pourquoi ne s'est-il pas soustrait à la sentence qui le condamnait à mort? Et comment s'est-il comporté dans les derniers instants, buvant la ciguë? Voilà ce qu'on ne saura jamais avec certitude, et voici les versions qu'en donne Platon dans ses trois grandes œuvres qui ont largement contribué à faire de Socrate et de ses événements une sorte de mythe fondateur de la philosophie. L'apologie de Socrate, tout particulièrement, reste aujourd'hui encore une porte d'entrée vers la philosophie parmi les plus belles et les plus accessibles. Platon, Phèdre, Flammarion, collection GF, 2004, jeu de séduction entre Socrate et Phèdre par un après-midi torride. Ils parlent de l'amour, des discours sur l'amour, des discours en général, où l'on songe qu'il est heureux que Platon ait daigné écrire pour nous laisser de tels textes, tout orphelins qu'ils soient. À noter que vous trouverez en bonus dans cette édition La pharmacie de Platon de Jacques Derrida, qui passe en France pour un classique sur ce procès de l'écriture chez Platon. Platon, lettres, Flammarion, collection GF, 1993, ces 13 lettres ont un statut particulier dans la mesure où ce sont les seuls textes où Platon s'exprimerait en son nom propre. Toutefois, leur authenticité est très discutée. La plus importante, et celle dont l'authenticité est la moins douteuse, est la lettre 7, où Platon fait le rapport détaillé de son action auprès du tyran Denis de Syracuse, dont il aurait aimé faire un roi philosophe. Et il n'est pas anodin que cette lettre présente un long passage sur la valeur et la dangerosité de l'écriture qui va dans le même sens que le Phèdre et semble mettre en question le statut de tous ses écrits. Platon y affirme notamment « Sur ce qui fait l'objet de mes préoccupations, de moi du moins, il n'y a aucun ouvrage écrit, il n'y en aura jamais ».